Enfin, c'est quand même assez sérieux, hein. Finalement, le réchauffement va plus vite que ce qui était prévu au départ. Donc voilà, c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Et on peut, bah, quand on est parent notamment, on pourrait se dire waouh, mais quel monde on est en train de donner à nos enfants, aux générations qui suivent. Quand on est, je sais pas vous, comment les jeunes vous réagissez quand vous entendez parler du réchauffement climatique, mais voilà, ou même de toutes les catastrophes qui se passent. On a entendu parler des incendies en Californie. Voilà, enfin, on peut pas fermer les yeux, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, c'est clair. Et waouh. Et comment est-ce qu'on réagit en tant que chrétien par rapport à cela? Parce que c'est vrai, en particulier dans nos milieux évangéliques, voilà, on lit des passages dans la parole qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église. Hein? On croit que Jésus va venir et quand il viendra, l'Église sera enlevée. Et même, il a été. Alors, il y a plusieurs enseignements sur l'enlèvement, mais il y a notamment cet enseignement que bah, on sera enlevé de cette terre, on ira sur une nouvelle terre, une nouvelle terre de nouveaux cieux. Mais finalement, du coup, bah, est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à ce qui se passe ici? Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à ce qui est en train de se dégrader? On pourrait finalement tomber dans cet excès. Bon, il y a d'autres enseignements comme quoi, et moi je crois que c'est le cas, c'est ma conviction en tout cas, que le Seigneur va renouveler cette terre et ses cieux. C'est cette terre et ses cieux. Mais de toute façon, quel que soit ce que l'on croit, on a une responsabilité par rapport à la terre. La terre, Dieu nous l'a donnée en nous disant, bah, cultivez, là, dominez sur la création pour bien vous en occuper. Donc on a une responsabilité, on ne peut pas rester inactif, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Il y a même des initiatives qui sont en train de se mettre en place, église verte, paroisse verte, comme quoi, voilà, pour consommer autrement. Mais la situation est telle que on commence à observer des mouvements même écologistes radicaux, qu'on appelle par exemple Deep Green. Ça veut dire vert à fond. Voilà, vous voyez, c'est un mouvement écologiste qui s'appelle Deep Green, qui vient des États-Unis, où on part du principe que c'est allé tellement loin que là, maintenant, il faut faire des actions même de désobéissance civile, où ben, voilà, il faut aller saboter les entreprises, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça va changer qu'on prenne une douche qui soit plus courte, ou ce genre de choses, en quoi nos actions individuelles, même si, voilà, il faut vraiment consommer différemment, en quoi vraiment ça va avoir un impact, tellement finalement l'impact polluant le plus important, il vient des pouvoirs financiers, il vient des entreprises, etc. Mais est-ce qu'il faut aller vers la désobéissance civile en même temps quand on est chrétien, nous, comment est-ce qu'on se positionne? La Bible dit de respecter les autorités. Mais aussi, quand on nous dit de respecter les autorités, c'est quand des lois sont iniques. Ah, dans quelle mesure faut les respecter? Vous voyez, c'est waouh! Comment est-ce qu'on se positionne face à tout ça? Ce qui se passe avec l'environnement, c'est une priorité. C'est une priorité, c'est important. Nous avons une responsabilité. Nous avons un témoignage à donner en tant qu'Église. Et tout ce que nous pouvons faire individuellement, il faut qu'on le fasse. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, il faut qu'on le fasse. On a à cœur de changer de locaux, je crois qu'effectivement, cette paroisse verte, c'est une donnée qu'on doit prendre en compte. C'est autre chose. Tout ce qu'on peut faire, il faut qu'on le fasse. Mais est-ce vraiment la priorité? C'est de ça dont je voudrais vous parler ce matin. C'est quoi la priorité? Parce que pourquoi est-ce que tout ça, ça se passe? Tout ça se passe parce que le péché est entré dans ce monde. Comment est-ce que le péché est entré dans ce monde? C'est le péché finalement qui, c'est sous la puissance du péché que, bien sûr, il y a l'action de l'homme aussi, hein, mais voilà, il y a tout ça qui fait que l'environnement se dégrade. Où est-ce qu'il est entré le péché? Il est entré là. Et la priorité, c'est quoi? Est-ce que la priorité, c'est de s'occuper de l'environnement? Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, vous m'avez entendu. Non, la priorité, c'est de changer de cœur. La priorité, c'est de changer de cœur. Changer de cœur, c'est la priorité. Parce que ce que nous savons par la parole de Dieu, c'est que le cœur de l'homme, il est corrompu. Le cœur de l'homme, en fait, la Bible nous parle de la vieille nature. La vieille nature, l'homme est comme un vieil homme, finalement, qui est en train d'aller vers sa mort. Le monde va vers sa mort. Voilà, tic-tac, il y a un décompte que nous ne connaissons pas. Mais c'est ça la réalité du cœur de l'homme. La réalité du cœur de l'homme, c'est que le cœur de l'homme est devenu stérile. Et il a besoin de changer, il a besoin d'être renouvelé. Et ce matin, ce renouvellement du cœur, ce changement du cœur, je vais en parler à partir de ce verset qu'on trouve dans la Genèse, qui nous parle d'un homme dont le cœur a changé. Un homme qui était vieux. Un homme qui était vieux, mais à qui Dieu avait dit, bah voilà, tu es vieux, mais tu vas avoir un enfant. Tu auras un enfant avec ta femme, qui n'était pas plus jeune. Qui n'était pas plus jeune, et puis même qui, a priori, avait passé l'âge même de procréer, de pouvoir enfanter. Et Dieu lui a dit, mais vous aurez un enfant. Et de cet enfant naîtra une multitude de nations. L'enfant de la promesse. Et c'est la promesse pour toi, mais aussi pour tout ce monde, en fait. C'est de là que viendra mon renouvellement. Et à cet homme, il dit, en Genèse 17, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton cœur sera Abraham. » Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ton cœur est vieux, mais tu vas changer de cœur. Je vais te donner un nouveau cœur. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Il nous donne un nouveau cœur. À la place d'un cœur qui, à la base, effectivement, est devenu complètement stérile, comme une terre aride, qui ne peut produire rien de bon. Abraham ou Sarai, c'est le cœur stérile de l'homme. C'est le vieux cœur, c'est la vieille nature. C'est ce qui ne peut rien produire, au final, que la mort. C'est un cœur qui est idolâtre. Parce que Abraham venait d'une contrée qui était idolâtre. Toute sa famille était idolâtre. Et puis quand vous lisez d'ailleurs dans la suite de ce passage, sa famille qui est restée à Padan Aram avait des idoles. Son neveu Laban avait des idoles. Et c'est quoi être idolâtre? Ça s'exprimait comme ça, hein, avoir des idoles. C'est-à-dire que les idoles étaient représentées par des statues. Mais finalement, les idoles, c'était quoi? C'était tout ce auprès de quoi on cherchait la protection, on cherchait la sécurité, on cherchait la paix. On cherchait à être sauvé. Finalement, c'était des expressions de toutes ces craintes, de toutes ces recherches, de toutes ces attentes, mais qui étaient tournées finalement vers soi, sous la forme d'idoles. Quelles sont les idoles aujourd'hui? Quelles sont les formes d'idolâtrie d'aujourd'hui? Le travail, le sport, là, le natel. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de fracture numérique. Au départ, la fracture numérique, c'est ceux qui peuvent avoir un attel, ceux qui peuvent ne pas en avoir, ou qui n'ont pas accès à la technologie. Et on parle de deuxième fracture numérique maintenant. La fracture, c'est entre ceux qui arrivent à se maîtriser avec les hautes technologies et ceux qui n'y arrivent pas et qui développent des addictions. Alors, je ne sais pas les jeunes où vous en êtes, hein, dans la deuxième fracture. Et ouais, nous aussi. Hein. Nous aussi. Mais voilà. Voilà une forme effectivement d'idole. Un pasteur disait que les idoles aujourd'hui, c'est l'amour, l'argent, la gloire, le succès, la beauté, l'intelligence. Finalement, c'est tout ce à quoi, tout ce qu'on va rechercher en se disant que ça va nous combler, en se disant que c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est ça qui va nous rendre heureux. C'est quoi les idoles qu'il y a dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que vraiment il n'y a plus d'idole? Est-ce que ta vie, elle est confiée entièrement à Dieu? Qui est-ce qui te sauve? Par quoi tu crois être heureux? C'est aussi un cœur pécheur. Un cœur pécheur, c'est-à-dire, si on reprend l'étymologie du mot péché, c'est un cœur qui manque la cible. Tout ce que nous pouvons faire, ce sont des erreurs. Même si nous essayons de bien faire, nous faisons des erreurs. Et peut-être ça va vous choquer ce que je vais dire, il faut bien le comprendre. On croit souvent qu'il est normal de bien faire. Est-ce que vous croyez qu'il est normal de bien faire? Vous n'osez pas répondre. Ben moi, je vais vous dire qu'il est normal, depuis la chute, il est normal de mal faire. Ce qui est devenu naturel, c'est de mal faire. C'est ça, c'est ce qui est devenu notre état naturel. Nous sommes devenus pécheurs. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas faire le bien. C'est l'état du cœur de l'homme. Et je vais vous donner un exemple. J'ai l'autorisation de ma fille, Margot, donc qui a 15 ans, et qui est en plein apprentissage de rangement de sa chambre. Alors, ouais, voilà. Bon, quand elle était petite, voilà, on s'y mettait, pas toujours de la meilleure manière qui soit, parce que justement, nous, on fonctionnait selon ce principe, il est normal de bien faire. Et ça, quand on fonctionne selon ce principe, il est normal de bien faire, on est très exigeant, trop exigeant. Et je peux vous dire que Margot est devenue quelqu'un d'exigeant, mais de trop exigeant envers elle-même. Voilà, ce qui a pu lui poser des soucis, ce qui des fois peut lui en poser. Voilà, voilà. Alors, elle s'efforce de changer. Mais en tout cas, voilà, pour le rangement de sa chambre, bah, des fois, quand vous arrivez dans sa chambre, bah, vous ne savez pas où marcher. Il y a plein de trucs par terre, il y a des vêtements, je vous passe les détails de tout ce qu'il y a, c'est fou. Et un jour, comme ça, j'étais rentré dans sa chambre et je vois, donc, comme elle mange le midi, elle emmène voilà, un repas et puis elle a les couverts. Elle avait laissé ça dans sa chambre et je voyais un couteau par terre. Et plusieurs jours, je vois le couteau par terre. Je dis, Margot, un couteau, c'est dangereux. Laisse pas ce couteau, range-le. Bon, voilà. Et des jours se passent. Et je reviens une autre fois dans sa chambre. Et là, de nouveau, je vois un couteau par terre. Ce n'était pas le même. Mais il était presque à la même place. Je dis, Margot, le couteau par terre. Et je regarde la chambre. Bon, elle me fait une petite remarque, mais t'as vu ma chambre? Et je regarde autour, effectivement. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de vêtements. Tout était rangé, nickel, à part le couteau. Et vous voyez comment, des fois, on peut être... Ah, y a toujours quelqu'un pour vous dire, vous faites des efforts, mais c'est jamais bien. C'est toujours mal. Et bien ça, celui qui dit ça, c'est le cœur pécheur. C'est le cœur pécheur qui nous fait parler comme ça. Ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Dieu n'est pas un accusateur. Amen. Et le cœur, ouais. Donc le cœur est pécheur. Et le cœur aussi, il est ennemi de Dieu. Il est ennemi de Dieu. Si vous vous souvenez du passage que j'ai affiché, et voilà, si vous en souvenez pas, bah tant pis pour vous, fallait avoir votre Bible. ouais, des fois ça revient. Excusez-moi, j'y peux rien. Priez pour moi, merci. On est sorti de l'alliance de Dieu. On est sorti de l'alliance de Dieu. Quand tu sors de l'alliance de Dieu, bah tu es ennemi de Dieu. Soit tu es allié de Dieu, soit tu es ennemi de Dieu. Et il n'y a pas de zone grise. C'est allié ou ennemi. Et notre cœur est ennemi de Dieu, ça veut dire que même si on cherche Dieu, même si on aspire à Dieu, comme Abraham pouvait le faire, ben voilà, si Dieu... Tu ne le laisses pas venir en toi. Ça reste quelque chose de religieux. Ça reste quelque chose de religieux et tu restes ennemi de Dieu. Et même quand on est chrétien, qu'on a accueilli le Seigneur dans notre vie, il y a tant de fois où on se comporte d'une manière où on sort de cette alliance. On sort de cette alliance. Et on peut essayer de faire des efforts par nous-mêmes. Je parlais du cœur pécheur, mais ça vaut aussi pour ça. À un moment, si vous regardez l'histoire d'Abraham, et c'est avant que Dieu lui donne cette parole de Genèse 17, qu'est-ce que va faire Sarai ? Qu'est-ce que va faire Sarai ? Elle va lui dire, bon, ben, on va donner un petit coup de main à Dieu, hein, pour la promesse. Il t'a donné une promesse, mais bon, ça met du temps à venir. Donc, je ne sais pas, on sait, peut-être qu'il nous a oubliés. Hein. Des fois, on peut se dire ça, est-ce que Dieu m'a oublié ? Donc, on va lui donner un petit coup de pouce. Allez, je vais te donner Agar, c'est ma servante. Elle va te donner un enfant et puis ça sera comme si c'était le mien. Ça sera l'enfant de la promesse. Bon, Abraham, il a accepté, hein, il n'a pas dit non. Et bien ça, c'est le cœur ennemi de Dieu. On a beau essayer de faire du bien, on se plante tant que ça part de notre cœur, le cœur de la vieille nature. Et c'est pour ça que je dis ce matin, la priorité, c'est le changement de cœur. Quelle que soit la cause dans laquelle on s'engage, et en particulier l'environnement. Parce que si notre cœur, il n'est pas changé, si on part d'un cœur qui est hors de l'alliance de Dieu, tout ce qu'on fera, ça sera hors de la volonté de Dieu. Et tout ce qu'on fera, ça sera des bêtises et ça n'arrangera pas la situation, au contraire. Alors, on doit être un témoignage, mais pas n'importe comment. Mais effectivement, la réalité, c'est que Dieu a dit à Abraham, « Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. » Prenez votre main comme ça. Et faites « Hé ». Hé, vous sentez ? Hé, vous sentez le souffle ? Hé, c'est pas grand-chose, hein ? Eh bien, ce pas grand-chose, c'est ce qui vient dans le nom d'Abraham et qui devient Abraham. C'est cette petite lettre en hébreu, c'est la lettre « Hé ». Les lettres hébraïques, elles ont une signification symbolique. Et la lettre « Hé », c'est la lettre du souffle divin. C'est la lettre de l'Esprit de Dieu. C'est une lettre qui, aussi, on dit que c'est un battant, une fenêtre. Elle laisse entrer l'air. C'est une porte ouverte vers une respiration. C'est agaçant la technologie quand ça ne marche pas. Hein. Bon, c'est que j'ai pas, c'est moi qui n'ai pas fait comme il fallait. Et ça, ce « hé » dans le nom d'Abraham. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vient vivifier le cœur. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, ton cœur est sec, ton cœur est aride, et il ne produira jamais rien de bon. Et la seule manière dont il peut produire quelque chose de bon, c'est que de véritablement bon, selon les critères de Dieu, c'est que tu l'accueilles dans ta vie, c'est que tu l'accueilles à l'intérieur de toi. Ça nous parle de la conversion. Abraham en Abraham, c'est la conversion du cœur qui accueille le souffle divin, l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, ce qui est beau, Dieu, il te respecte. Il ne fait pas les choses n'importe comment. Il n'a pas complètement changé le nom d'Abraham. Il a juste rajouté une lettre qui est rendue par ce H en français. C'est aussi le cas pour Sarai, qui est devenue Sarah. Le H, ce hé, ce souffle divin, il vient au milieu du nom d'Abraham. Il vient au milieu de ta vie. L'Esprit de Dieu vient au milieu de ta vie. Il considère ce que tu as été. Dieu part de ce que nous sommes. Il part de tes colères. Il part de tes peurs. Il part de la manière dont tu réagis, pas toujours justement. Il part de tout ça. Il ne vient pas comme ça, tout pousser, tout... voilà, c'est le branle-bas de combat. Parce qu'on est, voilà, on n'aime pas tous le changement. Enfin, ça dépend des personnes. Moi, j'aime beaucoup changer. Je cours vers le changement. Mais des fois, trop. C'est plus, voilà, c'est plus moi-même quoi, qui... Des fois, c'est moi, avec mes propres forces. Ma femme, elle n'aime pas trop. Voilà, elle est un peu plus réticente. Elle dit, waouh, moi, je compte sur la douceur de Dieu. Ouais, bah ok, mais des fois, je trouve que ça va passer vite. Vous voyez, Voilà. Quand on est jeune, il y a beaucoup de changements. On a affaire à beaucoup de changements. Il y a des périodes de vie où il y a plein de changements et ça peut faire peur. Ou au contraire, voilà, on peut aimer ça. Mais des fois, on peut tellement vouloir changer que, voilà, on fait les choses par nous-mêmes. Sarai devient Sarah. Le hé, il vient après, finalement, son nom, à la fin. Ça nous parle de cette parole dans la Bible qui dit « Toutes choses sont anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé est passé. » Alors bien sûr, voilà, il y a des choses qui continuent dans nos vies de nous embêter des fois. Mais le passé est passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui se passe en nous. Mais Dieu est en train de changer les choses. Et la réalité, c'est que ce cœur, il est vivifié. Ce cœur, il a reçu l'Esprit de Dieu parce qu'il a fait alliance avec Dieu. Il est revenu dans l'alliance de Dieu. Le cœur qui revient dans l'alliance de Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu. Qui aime Dieu plus que tout. Est-ce que tu aimes Dieu plus que tout? Plus que ces idoles dont on a parlé ce matin qui peuvent être dans ta vie, plus que ces comportements, ces choses que tu n'arrives pas à lâcher. Est-ce que tu aimes Dieu? Celui, le cœur qui est allié avec Dieu, c'est celui qui part du principe de ce qu'il est en Dieu. Ce qu'il est en Dieu. Le cœur qui est allié avec Dieu, c'est celui qui fait en sorte d'être semblable à Dieu, qui part du principe qu'il est semblable à Dieu, qu'il est semblable à Jésus. Le cœur qui est allié avec Dieu, c'est ben, celui qui a accueilli Jésus-Christ dans sa vie, qui lui a toujours été dans l'alliance de Dieu. Ce que je veux dire ce matin, mes amis, écoutez bien. Pars du principe de qui tu es en Dieu. En Dieu, tu es quelqu'un qui aime. Tu es quelqu'un qui aime parfaitement. Tu es quelqu'un qui, c'est pas que tu as des réussites tout le temps, mais tu es quelqu'un qui fait quelque chose de tes échecs. Tu rebondis dessus. Souvent, on part de ce que l'on est selon la vieille nature. Souvent, on peut regarder ce qui ne va pas dans nos vies, ce qui ne joue pas dans nos vies. Mais ce n'est pas ça, fonctionner selon l'alliance de Dieu. Fonctionner selon l'alliance de Dieu, c'est partir du principe que nous sommes comme Christ. Bien sûr, nous devenons, mais nous sommes aussi comme Christ. Et nous allons vers ce qui est de bien faire. Paul, on lui disait, mais qu'est-ce que tu racontes, Paul? Tu dis que c'est normal de mal faire. Mais alors, ça veut dire qu'on peut pécher comme on veut, quoi? Ça veut dire qu'on peut pécher comme on veut? Mais Paul veut dire, non, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut vivre, quand on a accueilli Jésus-Christ dans sa vie, c'est qu'il faut vivre selon la réalité de cette nouvelle nature. Et c'est parce que je vis selon la réalité de cette nouvelle nature, de qui je suis en Christ, que là, finalement, les choses, elles changent et elles se transforment. Et que ce cœur est vivifié. Et que ce cœur, il devient vivifiant même. Ce cœur, il devient un cœur vivifiant, un cœur fécond. Abraham et Sarah, c'est le cœur renouvelé. C'est l'homme nouveau. Et c'est parce que je laisse mon cœur être changé par Dieu, parce que je pars du principe de qui je suis en Dieu réellement, et c'est ça la réalité. Oui, il y a des choses qui peuvent clocher dans ma vie, mais la réalité, c'est que je suis un être nouveau en Dieu, un être nouveau en Christ. Et c'est comme ça que les choses changent. Et c'est comme ça que je peux aller vers des actes, vers des actions qui sont les œuvres que Dieu a prévues d'avance, qui vont partir d'un cœur qui est inspiré, qui vont partir d'un cœur qui est renouvelé. C'est ça la priorité, les amis. C'est ça la priorité. La priorité, quand on est chrétien, c'est de travailler au changement de notre cœur, au renouvellement de notre cœur. Et de là partent des actes. Pour l'environnement ou pour autre chose. de la part des actes qui sont dans la volonté de Dieu. C'est parce que je pars de ce que je suis en Christ. Alors ce matin, ne regarde pas à ce qui cloche, ne regarde pas à ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire mettre un voile sur tes zones d'ombre. Ça ne veut pas dire être dans le déni de ce qui ne va pas. Mais c'est Dieu qui le change en toi. C'est la nature de Dieu qui le change en toi. Alors, ce matin, je voudrais qu'on prenne 10 minutes avec ces questions. 10 minutes avec ces questions pour accompagner ce changement de cœur. Et on va faire ça en petits groupes. Je vous laisse vous mettre par 2-3 personnes. On va prendre 10 minutes. 10 minutes pour répondre ensemble à ces questions et ensuite prier les uns pour les autres. Ces questions, c'est celles-ci. Quelle idole ai-je à lâcher dans ma vie? Quel comportement, quelle attitude, quelle habitude ai-je à quitter à partir du moment où je sais que ça, c'est plus de la vieille nature, hein, c'est pas dans l'alliance de Dieu, c'est plus ennemi de Dieu. Ça, je le sais. Deuxièmement, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour cultiver plus la vie de l'esprit, plus lui donner de place? On sait, on dit lisez la parole, mais effectivement, ouais. Méditez la parole, priez, louez. Peut-être qu'il y a des choses concrètes qui peuvent te venir. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour cultiver plus la vie de l'esprit, lui donner plus de place, fonctionner plus selon ce cœur nouveau? Et troisièmement, du coup, par quel acte concret et inspiré, à partir de ça, je peux m'engager pour une cause, qu'elle soit grande, alors c'est l'environnement, ou qu'elle soit petite, c'est peut-être, être dans une bonne relation avec mes voisins, être m'occuper de la personne que je vois tout le temps le rejeter à l'école. Par quel acte concret inspiré, je peux m'engager pour une cause grande ou petite qui me touche? Parce que si ça te touche, c'est pas pour rien. Si ça te touche, c'est qu'il y a quelque chose du Seigneur qui est là. Il y a une petite graine, il faut pouvoir la laisser pousser. Mais pas n'importe comment. Pas selon cette vieille nature, mais selon la nouvelle. Ok? Alors allons-y. Allez-y, une église en mouvement. Alors le but, c'est pas que de parler et de réfléchir. Le but, c'est aussi de prier. C'est comme ça que les choses, elles changent dans notre cœur. Amen.